Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Louis.
La dernière fois, on a abordé à la fin de notre émission une image qui est celle de l'Église comme la barque sur laquelle est déposée Pierre, qui est dirigée par Pierre, mais où se trouve le Christ. Et au numéro 753 du catéchisme de l'Église catholique, il est dit que dans l'Écriture sainte, nous trouvons une foule d'images et de figures liées entre elles qui nous parlent du mystère inépuisable de l'Église. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'images de l'Église qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament ?
Alors, à la fois, il y a des images, je dirais, agraires, des images du pasteur qui soigne ses brebis. On pense par exemple à Ézéchiel, qui a beaucoup insisté là-dessus. On pense dans l'aspect agraire, depuis l'origine de la Genèse, on voit Abel qui est avec son troupeau, qui offre une partie de son troupeau en sacrifice, qui est agréé par Dieu, alors que Cain offre un sacrifice qui n'est pas agréable par Dieu, qui est purement végétal. On se souvient de cette distinction qui est très grande, et de nombreux autres passages de l'Écriture qui nous font comprendre que Dieu est finalement le bon pasteur et que nous sommes ses brebis et que nous formons donc par le rassemblement des brebis en un seul troupeau une image de ce que Jésus réellement réalise par son sang versé. La foi, disait saint Ignace d'Antioche, c'est son corps, et la charité, c'est son sang. C'est très beau, cette double lien que nous avons avec Jésus, puisque nous célébrons à chaque Eucharistie la séparation de son corps et de son sang au moment de l'élévation, puis son rassemblement au moment du péripsoum, au moment où le prêtre rassemble tout et redit à la fin du canon « par lui, avec lui, en lui » et rassemble finalement le pain et le vin au moment de la fraction du pain, et qui montre que ce corps qui nous est donné est ressuscité. C'est Jésus ressuscité finalement qui nous rassemble, et il y a donc toutes ces images déjà dans l'Ancien Testament qui seront reprises dans le Nouveau Testament, évidemment, pour nous aider à bien comprendre que l'Église est le bercail dans le Christ, est l'entrée unique et nécessaire, comme le fait comprendre saint Jean au chapitre 10. Elle est le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur, et dont les brebis, quoi qu'elles aient à leur tête des pasteurs humains, et parfois défaillants, ajoutons-le, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ même, bon pasteur et prince des pasteurs, qui a donné sa vie pour ses brebis. Et nous devons donc bien comprendre que l'image donc du bon pasteur est pour nous déterminante. Saint Jean chapitre 10, c'est vraiment un des grands moments des temps après Pâques, où nous célébrons Jésus comme le bon pasteur, le pasteur véritable. Et puis vous avez le terrain de culture, champ de Dieu, comme dira saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, et dans lequel l'antique olivier a pris ses racines, c'est Israël, et nous sommes greffés sur cette racine sainte, qui opère réconciliation entre juifs et gentils. N'oublions jamais que l'Église est la réconciliation des juifs et des non-juifs, des juifs et des gentils, comme on les appelle, c'est-à-dire tous ceux qui n'avaient pas reçu la circoncision dans l'alliance d'Abraham et de Moïse. Et Dieu en est le vigneron. Souvenons-nous que Jésus s'est comparé à la vigne véritable sur laquelle nous sommes greffés, et le Père en est le vigneron céleste, Et cette vigne véritable, c'est Jésus-Christ. Et ça, nous comprenons que circule donc cette sève qui va donner de beaux raisins. Et Jésus promet que nous portions beaucoup de fruits. Hein, et ce fruit est pressé pour faire un précieux mou qui va servir à faire du vin, le vin de l'Eucharistie, et qui va servir à cette transformation du vin en son sang. Hein. Ces images sont toutes combinées les unes avec les autres, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a un véritable tamisage toujours autour des images agraires qui vont nous permettre de voir le blé pousser et donner le pain qui va servir à l'Eucharistie, ou le vin pour le précieux sang. Donc tout est lié.
Donc à chaque fois qu'on voit un troupeau dans l'Ancien Testament, par exemple avec, je pense à Jacob qui prépare son troupeau,
avec Rachel,
et des vignes aussi,
il y a des grands passages sur la vigne, des grands champs d'Isaïe, et
donc ça veut dire qu'à chaque fois on peut penser que Dieu nous prépare au grand mystère de l'Église.
Exactement, il y a dans la création déjà des semences de compréhension, des semences naturelles, je dirais, parce que Dieu est créateur, qui nous permet d'atteindre la compréhension surnaturelle de ce qu'est l'Église. Mais deux moments sont quand même plus importants dans toutes ces images, c'est la notion de corps et la notion d'épouse. Ça, ce sont vraiment les deux, je dirais, pôles. Et d'ailleurs, c'est par où commence le Saint Concile Vatican II en parlant du corps du Christ, et qui finit par l'épouse. Bien souvent, l'Église est construction de Dieu. Un corps, c'est quelque chose qui est construit dans le sein maternel. Il y a la première, d'abord, union des deux gamètes qui permettent de faire une cellule humaine autonome, et puis petit à petit, il y a la construction d'un corps qui se développe. Le sang de la maman vient nourrir ce petit embryon, vient lui donner toute vie par le cordon ombilical, et puis il se construit, puis finalement sort du sein maternel, coupe le lien avec sa mère, devient autonome dans un détachement qui est nécessaire. L'Église est née du sein de la synagogue et a connu une croissance. Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, et puis il y a eu cette croissance, cette naissance et ce détachement. Il y a eu rupture, détachement avec les pratiques de l'Ancienne Alliance, en particulier les pratiques sacrificielles du temple, les pratiques de la cacheroute, etc. On s'est émancipé de la chose dans une véritable autonomie, en gardant les grands éléments de la morale, les grands éléments d'un peuple rassemblé dans une liturgie, en entendant les instructions de Dieu, en gardant évidemment des grands éléments structurants d'un peuple royal, sacerdotal et prophétique. On retrouve les grands éléments qui étaient au début en Moïse, mais qui ont été éclatés à cause de sa faiblesse. Il n'a pas pu rester roi, il n'a pas pu rester prêtre, il a été obligé de déléguer en quelque sorte à sa succession, autour de lui, son frère Aaron qui est devenu grand prêtre. Il n'a pas pu garder les trois charges que Dieu avait fait poser sur cette belle figure si humble de Moïse, et Jésus les a rassemblés. Et nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois.
Et avec ces deux, il y a ces deux images de bercail, de vigne, le corps, tu as parlé de l'épouse aussi, et au numéro 756 il y a un grand paragraphe sur tout ce qui est le temple. Est-ce que le temple est une belle image, une bonne image de l'Église aussi
Oui, de fait le temple est une très belle image. D'ailleurs on parle de temple du Saint-Esprit, c'est un des noms pour caractériser l'Église dans sa triple dimension trinitaire, peuple de Dieu le Père, corps du Christ, temple de l'Esprit. Vous vous souvenez, ces trois expressions qui ont été retenues par le Concile Vatican II, justement dans le Lumen Gentium, pour bien rappeler que notre unité dépend de l'unité même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors bien sûr, ce sont des appropriations, parce que peuple de Dieu le Père, on peut dire aussi peuple de Dieu le Fils, peuple de Dieu le Saint-Esprit. Et quand on dit corps du Christ, on peut dire aussi corps de Dieu qui engendre le Fils, ou corps du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui forme ce corps. Et pareil pour le temple. Hein, on dit temple du Saint-Esprit, mais dans ce temple, on rencontre pas seulement le Saint-Esprit, on rencontre aussi le Fils et le Père. Donc, des appropriations nous permettent de rendre plus sensible à notre esprit la dimension trinitaire de l'Église, parce que l'Église tire son unité non pas de l'union des hommes, comme on pourrait le penser, comme dans une sorte d'association, je dirais, non gouvernementale, où les gens s'associent, et c'est ça qui forme le maillon avec un président, un secrétaire, et puis des membres, hein, et ça ne se passe pas comme ça dans l'Église. L'Église tire son unité de l'unité même du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Lumen Gentium numéro 4. Et nous comprenons bien que si nous oublions cette origine divine, on va se répandre dans des actions, je dirais, peut-être philanthropiques, sympathiques, mais qui vont perdre ce témoignage de la foi, de l'espérance et de la charité. Sans la foi, l'espérance et la charité, nous ne sommes plus que des pions humains et nous perdons notre dimension divine de fils de Dieu qui doit témoigner du royaume au milieu des hommes.
Et donc, avec toutes ces images dans l'Ancien Testament, on est impressionné, parce que l'Ancien Testament nous prépare à la venue du Christ, mais on voit que Dieu nous prépare aussi à la venue de l'Église.
Exactement, venue de l'Église, et venue même de l'Église à la fin des temps, comme dans l'Apocalypse, on parle de la Jérusalem d'en haut, et souvenons-nous le beau texte de l'Épître aux Hébreux, qui nous montre comme nous dirigeant vers cette cité bénie, cette cité du ciel dans laquelle nous sommes tous appelés, montant au milieu des myriades d'anges. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant. Donc on retrouve la cité, c'est la Jérusalem d'en haut, de la Jérusalem céleste et de myriades d'anges, réunion de fête, et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge, universel, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. Merci.
Merci frère Edouard, à bientôt.
À bientôt.